Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
So it can't be the work of an animal.
Au sommaire aujourd'hui, la suite de notre exploration de ce sous-genre qu'est le found footage, exploration que nous allons aujourd'hui mener en compagnie de Fabien Delage, réalisateur de Cold Ground, un found footage sorti en 2018 et disponible en DVD chez BZZ Vidéo, accompagné de sa source d'inspiration, The Legend of Boggy Creek, un film de 1972 signé Charles B. Pierce, déjà auteur du sympathique Terreur sur la ville, abordé dans notre émission lors de sa sortie chez Rimini Édition. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Primecut, Primecut que vous pouvez trouver sur le site de son éditeur, theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, mais aussi dans toutes les bonnes librairies. Pour causer Found Footage et Cold Ground, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Mon cher Damien, je te propose, pour continuer notre exploration du found footage, d'aller aujourd'hui à la rencontre du metteur en scène Fabien Delage. Fabien Delage qui a démarré dans le documentaire avec les deux saisons de Dead Crossroads, avec également La Rage du Démon. De tout cela, on en a parlé dans l'émission. Hein, Dead Crossroads, une série où il se baladait dans des maisons, dans des lieux dits hanté sous la forme d'un documentaire, forme qu'il adoptera aussi pour La Rage du Démon, qui raconte l'histoire d'un film maudit. Hein, à chaque fois que les spectateurs le visionnent, ils trouvent la mort. On ne vous dit pas dans quelles conditions. Il faut voir ce film. Et puis en 2018, il a réalisé, un film de lui est sorti qui s'appelle Cold Ground, film sur lequel il a travaillé plusieurs années. D'ailleurs, il va nous en parler dans l'entretien, qui est un found footage qui est disponible chez BZZ Vidéo et qui est un film qui transpose la légende du Bigfoot dans les montagnes enneigées à la frontière franco-suisse avec beaucoup, beaucoup d'efficacité. Et ce que je te propose, Damien, c'est qu'on retrouve tout de suite notre ami Fabien Delage. Donc Fabien Delage au micro de Culture Prohibée. Bonjour Fabien Delage.
Bonjour.
Alors Fabien Delage, tu es en notre compagnie pour évoquer le found footage et aussi pour évoquer Cold Ground, parce que tu es réalisateur d'un found footage et tu n'es pas d'ailleurs réalisateur que d'un found footage. Tu as toujours été attiré par ce qu'on va appeler le documentaire ou le mockumentary, on avait déjà parlé de ton travail dans l'émission, on s'était déjà vu, croisé, on avait été ensemble dans une maison hantée, enfin on a fait pas mal de choses ensemble depuis...
C'est vrai, oui.
Ah oui, que de souvenirs depuis la série Dead Crossroads, les saisons 1 et 2, et on avait aussi évoqué La Rage du Démon, qui était un documentaire vraiment excellent, centré autour d'un film maudit qui provoquerait la mort de ses spectateurs. Voilà. Qu'est-ce qui t'attire dans cette forme, toi, dans le documentaire et puis aussi dans le found footage?
Bah, c'est vrai que documentaire et fan footage, au final, c'est assez proche. C'est vraiment des choses qui m'attirent dedans. Vraiment, c'est l'aspect réalité, en fait. Tu vois, c'est cet aspect, on croit que c'est vrai, et on fait passer la fiction avec les codes esthétiques du documentaire ou alors du reportage dans le fan footage. Donc, c'est cet aspect vraiment cinéma super réalité qui me plaît beaucoup dans les deux sous-genres, en fait. C'est quelque chose que j'affectionne depuis toujours, en fait, hein, depuis Blair Witch et tout, quoi.
Ouais, c'est Blair Witch, le film avec lequel tu as découvert le found footage.
C'est ça. En fait, Blair Witch, quand je l'ai vu, j'étais tout jeune, hein. Je crois que j'avais 12 ans, je sais plus, mais ça fait un moment. Et du coup, la première chose que j'ai fait après avoir vu Blair Witch, c'est d'avoir fait mon propre Blair Witch avec un pote. On avait tourné ça dans la campagne et on avait appelé ça l'affaire Misty Wood. Et on avait fait un truc vraiment avec une caméra, mais tu sais, même pas de DV et tout encore à l'époque, c'était du bêta et tout. Et on avait fait ça et vraiment pour s'inspirer. Je faisais croire à tout le monde que Blair Witch était vrai quand je faisais découvrir des gens et tout. Blair Witch a vraiment façonné mon amour du found footage.
D'ailleurs, comment dire, on en reparlera tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un côté Blair Witch aussi dans Cold Ground, mais on en reparlera. Si tu devais nous dire, toi, les films de found footage que tu préfères, sans en citer 20 ou 30, mais je veux dire, les quelques-uns qui t'ont particulièrement marqué, à part Blair Witch, bien sûr.
Ouais, j'aime bien Blair Witch, du coup, mais j'aime beaucoup... J'aime beaucoup Exist de Eduardo Sanchez. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film de, c'est un found footage de Bigfoot.
Oui, je l'ai vu.
Ah super, ça t'a plu?
Oui, mais j'ai quand même préféré Cold Ground.
Ah ouais, trop bien. Attends, tu préfères Cold Ground à un film de Sanchez? trop stylé. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé Exist. J'aime bien aussi. Il y en a beaucoup. Hein. J'aime bien The Bay. J'aime bien Cloverfield. Je vais peut-être en oublier, mais c'est vrai qu'en found footage, il y a vraiment pas mal. J'aime bien les VHS, et puis j'aime bien aussi Grave Encounters. Grave Encounters, je pense que c'est un de mes films préférés vraiment en found footage. Le 1 et le 2 sont deux films que j'affectionne particulièrement dans le genre haunting et films de fantômes en found footage. Je trouve que c'est un des plus récits, j'aime beaucoup, quoi. Mais oui, voilà, après la liste est longue en found footage, mais j'aime bien les Mondo aussi, mais c'est encore un autre truc, donc c'est... C'est encore de la réalité un peu fantasmée. Mais en termes de found footage, vraiment, avec la caméra, ouais, je pense que Grave Encounters et Exist vont être mes deux found footage préférés.
Tu rends joyeux mon acolyte qui... Car j'ai vu Exist aussi. Hein, je l'avais vu d'ailleurs, je crois, Gérard May, d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas.
Ouais, il était Gérard May, ouais.
Il me semble bien, ouais. Et mon collègue, ouais, il jubile, là.
Oui, tout à fait.
Voilà, ce sont des films qu'il adore, tout ce que tu as cité. dans le genre... Alors, tu parlais du Mondo. Dans le genre ancêtre du found footage, il y a un film alors, qui est sorti en duo avec Cold Ground, hein, chez BZZ Vidéo. Un film Fabien Delage donc, qui s'appelle The Legend of Boogie Creek, qui est un film de 72 de Charles B. Pierce. Quel est ton avis sur ce film qui est un film de Bigfoot, quoi, c'est pareil?
Ouais, j'adore ce film, c'est un de mes films préférés, bah, justement. Alors, ouais, on peut dire que c'est un peu du found footage, mais en fait c'est plus du Mondo. Du Mondo Bigfoot, puisque c'est vraiment c'est le style documentaire et tout, c'est juste qu'à la fin, vraiment, on va dire que le documentaire tourne mal, mais ouais, c'est vraiment une légende, hein, de ce film, puisqu'il fêtait même ses 50 ans l'année dernière, ils l'ont même ressorti en version restaurée 4K, alors je suis pas sûr que c'est cette version-là qui va être dans la version avec Cold Ground, mais en tout cas, ils l'ont restauré en 4K l'année dernière, ou il y a 2 ans, et ils l'ont ressorti, hein, et c'est vraiment magnifique d'ailleurs, donc ouais, c'est un film vraiment de Bigfoot que j'apprécie beaucoup puisqu'il est vraiment différent des autres et puis il lance vraiment un nouveau genre, c'est-à-dire c'est vraiment lui en 72 qui a lancé le genre Bigfoot, puis après ils ont fait plein d'autres films de Bigfoot, ils ont fait il y a même une suite dans les années 80 par Charles B. Pierce aussi d'ailleurs qui s'appelait je crois The Legend of Boggy Creek, The Legends Continue ou alors Partout, enfin il a son fils dedans Bigfoot, ça c'est marrant, mais il y a eu d'autres films dans ce style-là avec Creature from Black Lake aussi de 76 qui s'intéresse aussi au Fouquet Monster. En fait, le Fouquet Monster, c'est une créature très proche de Bigfoot qui vit en Arkansas. Et chaque année, même encore maintenant, les villageois, les gens de la région disent qu'ils ont vu ils voient des apparitions, ils voient des, des sightings de cette créature. Il y a même plein plein de bouquins écrits dessus, il y a des séries télé et tout. Et Boggy Creek est très connu pour son Fouquet Monster, et Charles B. Pierce l'a bien connu. Il avait fait ce film-là, puis après il a fait The Town That Dreaded Sundown aussi, qui était très bien, mais qui était un slasher puisqu'un c'était pas un found footage ni un mondo, quoi.
Oui, on en avait parlé dans l'émission, c'est un film que j'affectionne. En plus, c'est des films où il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a une grande ambition à chaque fois dans la structuration de son film, dans son découpage, tout ça. Enfin, on sent que c'est un type qui en a sous la semelle, comme l'on dit, qui ne va pas s'en laisser compter par le côté petit budget. Et justement, en parlant de films à petit budget, parce que je suppose que tu n'as pas eu un budget de 20, 30, 40 millions de dollars pour faire ton film, tu as signé Cold Ground, et Cold Ground, il s'inscrit dans la continuité des films dont on vient de parler, qui est un film de Yeti, de Bigfoot, enfin voilà, qui raconte l'histoire d'une équipe de télé qui est allée filmer en Suisse et qui s'est retrouvée confrontée donc à des créatures. On a retrouvé les bandes des années plus tard, alors qu'ils partaient faire un reportage au départ assez lambda. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de faire un film sur ce sujet?
C'est une bonne question. En fait, tu sais, en France, il n'y avait pas beaucoup de found footage. Quand on a développé Cold Ground, c'était déjà en 2014, avant 4 ans avant sa sortie. Il a mis un peu de temps à sortir, mais du coup, on était les premiers vraiment à faire du found footage horror en France. Et surtout, on était les premiers à faire un film de crime.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Justement, de Bigfoot, on ne sait pas trop. Quelles sont ces créatures qu'on retrouve dans la montagne, mais effectivement ce sont des créatures, des cryptides. On ne sait pas si c'est des loups-garous, si c'est des monstres qui ont muté, ou si c'est le Bigfoot, ou si c'est même le Dahu, mais effectivement c'est un film de cryptide français, ce qui était assez rare. Franchement, maintenant je ne suis même pas sûr que ça se fait encore, d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'il y en ait des nouveaux, mais c'était vraiment directement inspiré en fait de Legend of Boggy Creek aussi, puisque c'est une équipe de cinéastes qui vont faire un reportage sur des cas de mutilation de bétail dans la montagne, et une espèce de documentaire un peu sensationnaliste, donc vraiment à la mode du mondo. Et c'est en gros en tournant ce mondo que ça va dégénérer, qu'il va y avoir des petits soucis dans la montagne.
Indian legends tell about a big hairy man that roamed for many years throughout their land. White men laughed and said these legends weren't true, but now old Bigfoot has made man a fool. Bigfoot roams throughout his forest land, feet twice the size of any man. With the moon shining bright on a running stream, you can hear him yelling his mournful scream. The scientists believe he's a missing link. Some people say that he's extinct. Others say something from a bad old dream. But listen to Bigfoot's hey, mournful scream. Bigfoot is a friend of all the wildlife band. He feeds a little raccoon right from his hand, while the old chipmunk sets a chattering on his knee. Happiness blinds him, so he scarcely can see. Bigfoot's very cunning while walking his grounds. His pets, a bear and cougar, keep away man's hounds. Rising from the ground, smacking dust from his seat with a great big smile.
Vous écoutez Culture Prohibée. Slowly makes his retreat.
Scientists believe he's a missing link. Some people think that he's extinct.
C'est vrai qu'au final, tu fais un choix d'un mythe très américain, parfois asiatique, et que tu le replaces en Europe. Donc au final, est-ce que tu réécris d'une certaine façon le mythe, ou est-ce que en fait, c'est une idée qui est venue naturellement, ou finalement, est-ce que c'est l'accumulation déjà d'images et de documents, de photos ou de vidéos déjà found footage liées au cryptique qui t'a donné envie de parler du Bigfoot en Europe?
C'est exactement ça. Ouais. Cet aspect, déjà, ça me passionne vraiment. C'est une thématique que j'aime beaucoup, la cryptozoologie, que ce soit le Chupacabra, le Jazz et Devil, le Bigfoot, Loch Ness, ou même le Jackalope, tu sais, le lapin avec les cornes de biche. Je suis assez féru de tout ça, j'ai plein de t-shirts et tout, j'ai plein de bouquins, plein de films et tout. Donc c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment personnellement d'un point de vue affectif, c'est un mythe que j'aimais beaucoup, et du coup ça, je trouvais ça assez amusant d'en faire un film français, puisque déjà le genre c'est compliqué en France, alors le genre cryptide en plus c'est quelque chose qui se faisait pas du tout, et pour moi le found footage c'était vraiment le meilleur moyen de faire un film comme ça, puis en plus ça faisait honneur, ça mettait en avant les vieux films dont Core Ground s'inspire directement, quoi. Donc oui, c'est sûr que le Bigfoot et la cryptozoologie, c'était quelque chose dont je me suis nourri pendant des années, aussi bien en film qu'en doc, qu'en comics ou qu'en document, et du coup c'est quelque chose, ça m'a paru vraiment évident de traiter le sujet cryptide sous une forme found footage, du coup, quoi. Et je suis très content d'avoir pu le faire en France et d'avoir fait un film français, même s'il y a quelques personnages dedans qui sont étrangers dans le film.
Alors tu parlais justement, alors là tu parlais au sujet de Cold Ground, donc Fabien Delage, le film que tu as réalisé et qui est disponible chez BZZ Vidéo, là, tu parlais de films à l'ancienne un peu. Moi je trouve qu'il y a une patine un peu à l'ancienne dans ton film, dans le sens où la créature, les créatures mettent un certain temps à apparaître, il faut attendre la moitié du film, avant il y a une montée de l'angoisse, ça c'est volontaire de ta part, tu veux t'inscrire dans un sillon qui est celui plutôt de la SF un peu des années 50, tout ça, où on prenait le temps d'amener le monstre, la créature, et que du coup on était encore plus flippé quand il arrivait, quoi.
Exactement, ouais, c'est le but du film, déjà le fait de faire apparaître les créatures vers la fin du film, même si on sent plus ou moins leur présence pendant tout le film et qu'il y a des interrogations, elle laisse des traces, on se demande ce qui se passe, etc. Ça permet aussi, de fait de les introduire plus tard, les montrer vraiment visuellement plus tard, ça permet aussi de vraiment s'intéresser aux personnages et de faire ce qui manque un peu trop souvent dans les films de found footage, c'est de faire du développement de personnages, c'est-à-dire qu'au moins les personnages, on les fait exister avant de les mettre dans une situation vraiment, vraiment périlleuse. On les fait exister pour vraiment s'attacher à eux, et ils ont chacun leur épaisseur psychologique, leur caractère, etc. Et ça permet vraiment d'avoir des personnages un peu plus creusés, et du coup quand il leur arrive des choses, et ça, c'est d'autant plus pire de les voir souffrir, de les voir combattre, on va dire, ces créatures dans la neige.
Oui, l'une des forces de ton film aussi, je trouve, ça se fait au niveau de l'introduction avec le groupe de scientifiques. Finalement, on a une partie où ils se crapahutent dans la neige, vu que tout se passe dans des monts enneigés. Et l'une des forces, justement, c'est le moment où les différents personnages évoquent les théories et à quel point ils sont liés. On a par exemple le fait que ça s'est déjà produit aux États-Unis, la mise en avant de possiblement d'OVNI, ainsi que le fait qu'on parle d'un projet scientifique qui est du coup dans les montagnes françaises suisses, qui est pourtant financé par un Anglais qui a donné le nom à tout ça. C'est un moment que j'aime énormément. Pour revenir sur un autre film que tu as évoqué, du coup, Exist d'Eduardo Sanchez, où on a déjà la mise en avant du cryptique. Est-ce qu'au final, le fait d'en avoir parlé, c'était un hasard, vu que tout nous dit que le projet a commencé bien avant qu'il soit sorti, ou est-ce que le film a finalement servi d'inspiration également ?
Oui, en fait, Exist, il est sorti alors que j'avais déjà écrit le film. Ouais. Donc du coup, j'étais très content de voir qu'il y avait encore un film de Bigfoot en found footage, même si j'aurais aimé l'avoir fait. Mais c'est vraiment je crois que c'est un scénario vraiment un peu plus classique, quoi. Ils vont faire la fête dans un week-end et puis ils se retrouvent stalkés par Bigfoot. Et effectivement, moi, dans Core Ground, j'avais vraiment cette envie de parler de plein de pistes différentes, comme tu disais, des extraterrestres, ou peut-être une secte rituelle pour la mutilation de bétail, un virus, une bactérie dans un glacier qui a un temps de fondre, qui pourrait en fait expliquer ce que sont ces créatures, en fait, de quelles créatures il s'agit, même si à la fin, en fait, au final, la question est toujours en suspens. Mais c'est vrai qu'Exist est arrivé, en fait, juste après l'écriture, quand on était en pré-prod de Core Ground, quoi. Et puis on a tourné Core Ground au final, je crois en 2014 ou la même année que Exist était sorti. Donc ouais, il y avait déjà une antériorité, mais si j'avais vu Exist avant, peut-être que j'aurais pu m'en inspirer un peu plus. C'est une bonne question. Il y a une super scène dans Exist où ils sont dans la caravane qui est tombée, et puis t'as le, ils sont à l'intérieur, puis tu vois le Bigfoot qui saute d'en haut et tac, il tombe sur la voiture. Ça, ça aurait pu être un truc stylé que j'aurais bien aimé faire.
Oui, il y a aussi la poursuite à vélo qui est assez sympa. Et en t'écoutant parler, quand on compare le fait que tu aies fait La Rage du Démon, du coup, qui est un documentaire, un film qui tue les personnes qui l'ont vu, ça m'a fait penser aussi à Entre Hommes, qui a aussi ce côté found footage, qui est également un film que les gens qui ont vu en sont morts. Et en fait, la particularité, c'est que Entre Hommes est sorti très récemment, je crois, 2018, quelque chose comme ça. Et en fait, à t'écouter, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que finalement, tu devines un peu à l'avance les tendances que va faire le found footage américain, sauf que toi tu le sens avant et tu le mets en avant.
C'est vrai, c'est parce que c'est la passion qui me pousse à faire des projets assez vite. Mais par rapport à Entre Hommes, tu vois, la limite, on a failli être en procès avec eux, limite. Hein. Apparemment, j'ai pas vu le film, mais c'était complètement toute la partie documentaire avant qu'ils montent vraiment le film. Apparemment, est complètement plagiée sur La Rage du Démon avec des répliques qui sont les mêmes et tout et tout quoi. Alors, et le producteur en fait d'Entre Hommes, un des producteurs, est connu apparemment pour trouver des petits films indépendants européens et de les riter à sa sauce en Nord-Amérique pour les ressortir avec des gros distributeurs. Donc Entre Hommes, c'est pas un film que j'affectionne particulièrement parce qu'il est un peu problématique. Il a entretenu un rapport bizarre avec La Rage du Démon, même si j'ai pas vu le film, donc du coup, et j'ai pas envie de le voir du coup. Mais je sais que on a même été accusé en fait, La Rage du Démon, d'avoir été un plagiat d'Entre Hommes à un moment, tu vois. Donc c'est le genre de truc qui fout un peu la rage.
Littéralement, oui. Après, j'ai vu Entre Hommes et il est pas fantastique.
Et du coup, est-ce que tu as vu La Rage du Démon aussi ?
Pas encore.
Ok, du coup, tu peux pas me confirmer que les dialogues sont exactement les mêmes. Alors, mais en tout cas, on m'a dit que c'était la même chose et ça m'a un peu troublé.
Ah bah écoute, on mènera l'enquête, parce que moi, j'ai vu La Rage du Démon, donc, et qu'on avait découvert à Gérardmer, d'ailleurs, à l'époque, hein, qui avait été projeté au festival de Gérardmer.
C'est vrai, ouais. Hors compétition, ouais.
Et c'était bon. En tout cas, il faudrait expliquer à ce producteur que aujourd'hui, c'est un peu grillé, vu comment les films circulent sur la toile. Quand on se met à pomper un film venu d'Europe pour refaire à la sauce états-unienne, faut lui expliquer que c'est un peu grillé. Ça se voit aujourd'hui quand même. Hein. C'est
pas. Ouais, surtout que le film était sorti en Nord-Amérique. Il est sorti en Amérique il y a quelques années, je crois déjà 2-3 ans, et en DVD et tout quoi. Donc du coup, il y a moyen que. Enfin, c'est un peu bizarre. Quoi. Et puis quand tu regardes sur IMDb, il suggère Entre Hommes aussi avec, ou alors La Rage des Mons est suggéré sur la page d'Entre Hommes. Enfin, c'est un peu un duo bizarre, ouais.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Found Footage. On va revenir à Cold Ground, hein. Cold Ground qui est donc ton found footage sur la transposition, on va dire, du Bigfoot, mais en Europe, en Suisse plus exactement. Moi, je trouve que ces créatures, bon, t'as un peu abordé le look des créatures tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a David Scherrer qui a travaillé sur les effets spéciaux, qui est le très talentueux David Scherrer, qui était déjà venu dans notre émission. Et moi, il me rappelle un peu ces créatures, un petit côté The Descent aussi, les troglodytes de The Descent.
Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, les créatures, bon, elles sont très velues, elles sont moins velues que les crawlers de The Descent, mais le film est souvent, aux États-Unis, pour marketer le film, ils disent en fait, Cold Ground, c'est The Descent mythe de Blair Witch Project, en fait, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment, oui, cet aspect, ces créatures-là ont vécu dans la montagne depuis tout ce temps-là. On est dans les 70s, tout n'est peut-être pas encore exploré dans les monts enneigés à la frontière franco-suisse. C'est un endroit qu'on n'est pas habitué à être dedans. Donc, du coup, il peut y avoir de la vie, hein, comme Bigfoot ou comme le Dahu. Il peut y avoir des cryptides qui se cachent là-dedans. Et donc, du coup, il y a cet aspect un peu, oui, les créatures étaient là avant nous, elles le sont peut-être encore, et on est là au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Donc oui, et puis The Descent, c'est vrai que c'est un film que j'adore, qui m'a beaucoup marqué. J'aime même bien The Descent partout aussi. C'est la thématique de The Descent est vraiment quelque chose qui me plaît bien, et je trouve qu'il y a encore des choses à explorer là-dedans, d'ailleurs, dans la mythologie. Ce serait sympa d'ailleurs de voir un The Descent 3. Moi, je serais très client.
Pour moi, The Descent, ça n'engage que moi, mais c'est le meilleur film d'horreur du 21e siècle. Je trouve qu'en termes de film d'horreur, j'ai pas vu mieux. Je parle de film d'horreur pur, hein, parce que d'horreur, de terreur, quoi. J'ai pas vu mieux de. Ça date du début des années 2000, hein, de la première moitié des années 2000, je crois. Mais j'ai pas vu mieux depuis. Je trouve que c'est un film très, très impressionnant. D'ailleurs, je pense que ça a mis une sorte d'un peu de pression sur Neil Marshall, qui a jamais vraiment renouvelé. Qui a fait des bons films, hein, que j'aime bien, hein, à part son Hellboy, qui est pas bon du tout, mais pour le reste, des films que j'aime bien. Mais qui a jamais retrouvé, en fait, la formule magique qu'il avait sur ce film, qui est quand même assez extraordinaire, je trouve.
Ouais, c'est vrai que The Descent, c'est vraiment un film qui a fait date, qui est vraiment impressionnant. Et puis quand tu le regardes la première fois, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, en fait. Tu vois juste ces filles qui vont faire de la spéléo, mais tu sais pas le pitch, en fait. L'issue, et je trouve ça assez dingue. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, avec du recul, je m'en suis même vraiment inspiré dans Cold Ground, parce que tu sais, à la fin de Cold Ground, il y a une scène dans une grotte, et il y a Mélissa, le personnage principal, qui fait une confession à face cam. En gros, elle dit qu'elle va pas s'en sortir, limite, et puis elle parle à la caméra pour qu'on retrouve son journal ou une trace d'elle. Et juste après, il y a une créature qui apparaît derrière elle. Et en fait, cette créature, quand tu regardes bien, elle est là dans tout le plan. Elle se mélange un peu pendant tout le dialogue. Elle est cachée, en fait, derrière Mélissa, et elle se mélange au décor de la grotte. Et un peu ça, en fait, dans The Descent, je me rends compte qu'inconsciemment, j'en suis complètement inspiré, puisque dans The Descent, t'as ça aussi, tu vois, les crawlers, des fois, tu les confonds avec des stalagmites, tu vois, ou des stalactites, ils font partie du décor aussi, puis c'est que quand ils se mettent à bouger qu'on voit qu'en fait, c'était pas un élément du décor, mais qu'il y a une créature vivante, quoi. Donc, ouais, The Descent, ça n'a pas inspiré que moi, je pense. Ça a inspiré vraiment beaucoup, beaucoup de. Après, ils ont fait The Cave et tout, ils ont fait plein d'autres films. Ça a inspiré pas mal de cinéastes, à mon avis. Ouais. C'est un film génial, ouais. J'adore.
Justement, Fabien Delage, donc dans ton film Cold Ground, là, t'en parlais à l'instant, je voulais te poser la question, donc ça tombe bien. La grotte, lors du final, est un décor superbe. Et tu as quand même. Comment tu as trouvé tous ces décors? Parce que c'est un film énorme, tourné en extérieur, dans des décors quand même assez impressionnants, qui donnent froid, d'ailleurs. On parlera après des conditions de tournage, mais les lieux de tournage, comment tu les as choisis? Comment se sont passés les repérages?
Ben, ça s'est fait vraiment avec. Pour la grotte, c'était la grotte de Dôme. En fait, on a cherché un peu partout en France des grottes qui pourraient le faire au niveau décor. Alors, bien sûr, c'est des grottes en plus qui sont aménagées pour des visites et tout. Donc, si le but, c'est d'arriver à pouvoir négocier avec eux de tourner dedans, de retirer tout l'aspect visite, de pouvoir éteindre les lumières pour avoir nos propres lights à nous, etc. Puis arriver à brancher du matos d'éclairage, faire des lights et tout ça dans une grotte, c'est pas simple. Mais donc il faut arriver à trouver en fait la grotte qui permettra une installation vraiment pour faire la photo. Et puis une grotte qui sera, enfin des gens qui seront d'accord pour nous faire tourner dedans, et à tout petit budget aussi, parce que c'était un petit budget Cold Ground. Donc pour la grotte, ouais, on a démarché plusieurs grottes en France jusqu'à trouver celle qui était vraiment la plus belle visuellement et celle qui était aussi la plus pratique techniquement pour pouvoir arriver à tourner dedans et faire des raccords avec les scènes de montagne, puisque cette grotte n'est pas du tout dans la montagne. Il faisait pas très chaud là-bas, mais elle était pas du tout dans la montagne, c'est dans la grotte de Dôme, en fait. Donc du coup, clairement, il y a pas de trop de possibilités, en fait, quand tu cherches du décor pour cette grotte-là, c'était la seule vraiment dans laquelle on pouvait tourner bien. Et puis pour les décors dans la neige, en fait, j'avais tourné Dead Crossroads de saison 2 quelques années avant ou un an avant, et du coup on avait déjà fait des repérages dans la neige, et on a tourné au même endroit qu'en fait Dead Crossroads saison 2, qui avait dans l'épisode 10 en fait, qui introduisait même d'ailleurs Coreground, où on montrait des créatures pour la première fois. On avait fait un espèce d'épisode de cryptozoologie dans la saison 2 qui était assez fun, et du coup on a repris les mêmes locations qu'on a un peu étoffées bien sûr, mais on a tourné au même endroit. Donc ça, je connaissais déjà les lieux, et on avait déjà une base là-bas qu'on pouvait exploiter quoi pour tourner.
Moi, j'avais une question par rapport au choix de l'esthétique de l'image. Est-ce qu'elle s'est faite simplement un peu, par exemple, comme dans Paranormal Activity 3 qui se passe dans les années 80, mais qui utilise une caméra qu'on sait qu'elle ferait pas exactement les mêmes images qu'on voit, ou est-ce que tu t'es inspiré d'images d'archives pour choisir le grain?
En fait, je me suis vraiment inspiré des Mondo, comme si c'était limite du film des 60s. Bon, alors après, là, c'est le cinéma, c'est les débuts des bandes parlantes, donc ça se passe en 76 dans Coreground. Mais il fallait prendre un grain qui était vraiment propre à l'époque, en fait. Donc, bien sûr, c'est tourné en numérique, on n'a pas tourné en Super 8. Mais on a essayé de trouver des grains 35 ou 16 ou 8 mm. Donc en l'occurrence, c'est censé être 8 mm dans Coreground. Mais on a essayé de trouver des grains qu'on a jetés numériquement bien sûr dessus, mais qui étaient les plus proches en fait de l'époque de Coreground. Et donc du coup en 76, ce grain-là, c'était le plus crédible en fait, et sans pour autant trop détériorer l'image, tu vois, un grain un peu à la Texas Chainsaw, au final, puisque Texas Chainsaw, c'est quoi, c'est 74, et le film se passe 2 ans après, et tu vois, donc c'était un peu cette esthétique très grainée, mais tout en gardant une belle image, et puis tu sais, il y a quand même beaucoup de mouvements et tout, le found footage, c'est assez rapide et tout ça, donc il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à l'écran sans pour autant trop pourrir l'image avec du grain. Donc ouais, l'esthétique en fait c'est faite un peu naturellement en post-prod, quoi. Tout simplement en cherchant un grain qui correspondait vraiment au film, quoi.
Pour rester dans l'esthétique et la beauté de l'image, je voudrais parler de l'affiche que je trouve magnifique, et j'ai un peu exploré ton Instagram et au final, est-ce que tu peux nous parler de ton affiche et finalement de ton approche des images, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le même ton.
Ouais, tu veux dire l'affiche de Coreground?
Oui.
Celle de Coreground, elle a été faite par Justin Osborne, qui est un artiste qui est très très tendance maintenant. Maintenant, par exemple, je pourrais même plus bosser avec lui parce qu'il est devenu tellement cher. Il fait des affiches pour beaucoup 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 de boîtes, plus grandes sociétés prod et tout. Donc du coup, sa touche et son coup de papier, son coup de crayon est devenu un peu trop cher. Mais j'espère rebosser avec lui un de ces quatre. Mais en tout cas, oui, lui, il a un style très très. Sa boîte s'appelle Slasher Design. Donc du coup, il a un style très slasher 70s, 80s. Que j'aimais beaucoup, et que je trouvais que c'était assez approprié du coup de faire une affiche comme ça illustrée pour Coreground, même si aux États-Unis quand ils ont ressorti le film, parce qu'il était en rupture, ils l'ont ressorti en DVD avec une affiche complètement différente qui n'utilise plus cette affiche-là. Mais je trouvais sympa, ouais, l'idée de mettre un mec mort dans la neige comme ça avec sa caméra en train de pourrir un peu comme ça dans la neige avec les créatures, sachant que l'affiche a été faite avant le film. Donc du coup, on avait déjà le creature design, et on lui avait envoyé des photos en fait de la créature et des vêtements un peu des personnages, etc., pour qu'il puisse s'en imprégner. Puis il a pondu un design assez rapidement, et j'ai tout de suite adoré. Donc du coup, je fais ouais, c'est parti, et on est resté là-dessus. Et effectivement, oui, c'est vrai que j'aime bien les affiches, j'aime bien les illustrations pour les films. Pour La Rage du Démon aussi, on avait fait un poster qui faisait plus 1900.
Ouais, il est magnifique, je trouve, celui de La Rage du Démon.
Oui, moi aussi.
Ouais, c'est un autre Justin, c'est pas Justin Osborne, mais c'est Justin Erickson de Phantom City Creative qui l'avait fait à l'époque, parce que je bossais avec lui à Rumorg, c'était l'époque où il était directeur artistique de Rumorg, et du coup on était assez proches, et il a pu me faire un prix sur l'affiche. Maintenant pareil, il fait du Game of Thrones, il fait du Marvel, c'est ça, il est inaccessible. Il faut rajouter plusieurs zéros sur la facture pour pouvoir se payer un de ses artworks, puis il est toujours booké. Mais c'est vraiment les deux artistes avec lesquels j'aimerais rebosser pour un prochain film. Ouais. J'adore l'illustration dans les affiches de cinéma et je trouve que ça manque un peu actuellement. On a une tendance avec la nostalgie maintenant et les films rétro un peu. On revoit un peu ce genre de design qui revient et ça, c'est cool par contre.
Non, je suis assez d'accord, moi qui collectionne les affiches de ciné, je trouve que ça, les affiches d'aujourd'hui, avant il y avait plein d'illustrateurs très connus, on s'arrachait les affiches selon l'illustrateur, je me rappelle de Belinsky, tout ça, enfin plein d'illustrateurs, aujourd'hui ça a vraiment quasi disparu quoi, c'est bête, parce que ça va pour moi en plus avec le cinéma fantastique, le cinéma populaire, le cinéma, tout ce qu'on aime quoi, voilà. C'est quelque chose qui manque.
C'est le cinéma populaire, exactement. C'est cet aspect, la belle affiche pliée et tout, tu vois. C'est l'aspect vintage qui va avec. Et du coup, il y a vraiment un aspect affectif avec ce genre de cinéma. Maintenant, c'est que du photomontage et tout. Et c'est un peu plus ennuyeux, je trouve.
And I consider it mine. I'm growing tired. I'm weary now. The games you play, you better give up now. You keep looking for me. You don't understand.
Vous écoutez Culture Prohibée.
You don't know the powers that are in my hands. I've done my best to stay away from you. Now if you make me mad, I don't know what I'll do. You keep searching for me.
Searching for me.
It's getting hard to hide.
Tu parlais de l'affichiste à l'instant, de Cold Ground, mais Fabien Delage, tu as aussi un casting qui, moi, je trouve, parce que tu nous disais que c'était un film à petit budget, et souvent ce qui pêche dans les films à petit budget, c'est des acteurs qui jouent moyennement bien, mais bon, on se dit, bon, bah, c'est un petit budget, on va pardonner. Là, les acteurs sont vachement bons, très crédibles, très. Voilà, on y croit, quoi. Ce casting, comment tu l'as réuni, trouvé parce qu'ils ont beaucoup de talent, ces jeunes acteurs.
Oui, c'est pour ça qu'ils ont été castés. Ouais, non, mais c'est vrai que, j'avais eu l'occasion de travailler avec Doug Rand et Philippe Schurer sur La Rage du Démon avant de tourner Cold Ground. Et ils étaient très crédibles. J'avais eu un coup de cœur avec eux. On les avait castés à l'époque de La Rage du Démon. Et du coup, j'ai envie de rebosser avec eux sur Cold Ground parce que je trouvais qu'ils collaient bien au personnage. Et limite, en fait, le rôle de Blake Turner, l'inspecteur dans Cold Ground, a été écrit limite pour Doug Rand, en fait. Hein, et le rôle du scientifique aussi a été écrit pour Philippe Scherer. Donc, en fait, je savais déjà que j'allais tourner avec eux pour ces deux personnages-là. Et puis, pour Mélissa, c'est Gala Besson qui a le rôle principal que je trouvais très très bien, qui avait une filmo assez pas mal d'ailleurs. Je crois qu'elle tourne plus beaucoup en ce moment, mais à ce moment-là, elle était vraiment à l'acmé de son jeu. Et puis voilà, c'est dur pour ces comédiens-là parce qu'il faut arriver à fournir des dialogues crédibles en plein milieu de la neige, à faire des prises encore et encore dans la neige. Il fait super froid, ils doivent marcher en même temps, ils doivent avoir l'air réaliste. Il ne faut pas que ça fasse réciter comme au théâtre, parce que là on est vraiment dans du fan footage. Il faut que ce soit super crédible et que ce soit vraiment du parler. Donc du coup, oui, c'était un peu le défi pour ces comédiens-là. Et puis voilà, j'avais introduit aussi Fabrice Pierre, qui fait lui beaucoup de théâtre et pourtant qui était assez naturel dans le fan footage. Il joue aussi lui aussi dans La Rage du Démon. On retrouve Geoffrey Blandin qui était avec moi dans les Dead Crossroads. Et puis il y avait Maura Tillier, elle, qui c'était un de ses premiers rôles d'ailleurs, et qui s'en est très très bien sortie vu les circonstances et les conditions de tournage qui étaient un peu éprouvantes. Donc ouais, je suis assez content de ce casting, comme disent certaines critiques, c'est un petit casting de série B et franchement ils font bien le taf et je suis très content d'avoir pu travailler avec eux. J'espère que j'aurai l'occasion de retravailler avec eux encore prochainement.
Cold Grand est une très bonne série B. Savoir faire une bonne série B, ce n'est pas donné à tout le monde malgré tout. Donc voilà, pour la qualité de Cold Grand, on te félicite Fabien. Alors moi, tu t'en parlais à l'instant, j'ai envie de savoir, parce que tu parles des conditions de tournage, alors tu as peut-être quelques anecdotes sympathiques à nous raconter, ou pas sympathiques d'ailleurs, je ne sais pas, mais comment tu as tourné? Est-ce que tu as tourné dans l'ordre du script pour accentuer un peu, pour tester l'endurance de tes acteurs, pour accentuer un peu les souffrances qu'ils ressentent et tout, ou est-ce que ça a été tourné selon un plan de tournage qui fait que ça a été tourné dans le désordre, quoi, parce que à l'écran on a vraiment l'impression que c'est tourné dans l'ordre du script en fait.
C'est quasiment ça, ouais. On n'a pas tout tourné dans l'ordre du script. Il y a vraiment pour des raisons en fait de budget pour les comédiens aussi. Il fallait rentrer certaines prises à des moments précis, et puis selon les plannings en fait de certains comédiens, il fallait arriver à finir leur scène avant qu'ils repartent sur Paris. Et donc du coup, on a tourné un petit peu dans le désordre, mais c'est vrai que le film est à 80%, 70% tourné dans l'ordre chronologique. C'est vrai, du coup, ça permet une montée des comédiens et une espèce d'usure des comédiens qui donnent bien à l'écran. Et du coup, ils sont de plus en plus familiers entre eux, etc. Ça permet une bonne cohésion de groupe. Effectivement, ouais, c'est tourné. Quasiment dans l'ordre. Et on a eu justement des conditions de tournage un peu compliquées parce qu'il neigeait, ou alors quand je voulais qu'il neige, il neigeait pas, ou alors il n'y avait pas assez de neige au moment venu pour certaines scènes, donc on a dû monter en altitude encore plus haut pour pouvoir avoir la neige, alors que normalement cette période-là, il y avait beaucoup de neige. Voilà, les conditions climatiques étaient un peu compliquées. Et puis quand on a fait une scène de nuit qui était assez compliquée, c'est vers la fin quand Doug Rand, Blake, il se fait tuer dans la forêt. Et du coup, David Scherrer fait des effets spéciaux on set dans une caravane et dans le froid, dans la neige et tout, à genoux, en train de maquiller, etc. Et du coup, la neige s'est mise à tomber en plus, ce qui fait que c'était catastrophique pour les lights, en fait, pour tout l'aspect technique, c'était un peu compliqué. Puis il faisait nuit, donc du coup, il y a des gens de l'équipe qui se perdaient, malgré on avait des camps, en fait, des camps de base avec la lumière et tout pour pouvoir se repérer dans la forêt, mais il y en a qui se perdaient quand même dans la forêt et tout. Enfin, c'était un peu compliqué. On a dû improviser un petit peu pour pouvoir rentrer tous les plans avant que Doug, par exemple, rentre à Paris. Et puis voilà, on était super contents d'avoir rentré cette scène-là. Il a neigé et tout. C'était éprouvant, mais on a réussi à le faire. Et puis au moment de rentrer, il y a tellement de neige qu'en fait, que le camion ne peut plus démarrer. Il est complètement enlisé et enneigé, on le voit à la peine. Donc du coup, on a dû faire marcher l'assurance et faire venir un taxi tout terrain à 2000 mètres pour rapatrier l'équipe plus bas dans la vallée au chalet. Puis on est retourné après sur place, essayer de récupérer le camion. Donc ouais, c'était un peu compliqué. C'était une journée, on a fini à 4h du mat. Puis je me souviens, on s'est fait une raclette vers 4-5h du mat avec l'équipe. Et avant de retourner le lendemain, c'était assez épique. Mais je pense que les comédiens gardent un assez bon souvenir parce que c'était assez rock'n'roll. Ouais.
Heureusement que vous n'êtes pas fait attaquer par un Dahu à ce moment-là, hein, parce que là, c'était la totale. Quoi.
C'est ça. Même le Dahu en question, tu vois, les créatures... la créature, parce qu'au final il n'y en a qu'une seule vraiment en costume, le reste c'est du montage, quoi. Mais et même la créature, elle commençait à faire super froid, et puis comme elle était dans la neige constamment, le costume, la neige en fait attaquait le costume, ce qui fait qu'il perdait sa peinture au niveau des jambes, il perdait ses poils, et donc du coup il fallait aussi arriver à gérer le costume et le comédien qui était dedans, qui n'en pouvait plus d'attendre, genre le détape, vas-y jette-toi là. Il attendait pendant des heures immobile comme ça dans la neige alors qu'il neigeait et tout. Enfin, c'était le truc, vraiment choper une pneumonie, mais au final il s'en est bien sorti. En plus, le comédien qui fait la créature, enfin, il y a deux comédiens qui font la créature, mais l'un des comédiens, il faisait aussi le mec sans visage à un moment dedans, quand on retrouve un cadavre qui s'est fait skinner le visage et qui se réveille pour faire un petit jumpscare. Et ce comédien-là aussi, il a dû attendre comme ça, aussi dans le froid, couché dans la neige, à attendre qu'on ait une bonne prise et tout. Donc, c'était des conditions un peu compliquées pour les comédiens et pour l'équipe aussi d'ailleurs, hein, parce que c'était c'était voilà, tourner dans la neige à 2000 mètres, c'est pas simple, surtout à un moment où on se retrouve avec de la neige jusqu'aux genoux limite et on peut plus se déplacer aussi vite qu'on voudrait, etc. Quoi. Donc c'était éprouvant, mais assez fun, c'est un bon souvenir.
Ouais, de tout ce que tu racontes là sur le tournage de Cold Ground, Fabien Delage, ça nous donne à penser que c'était une équipe qui était ultra motivée, qui donnait tout pour le film, à l'image de David Scherrer. Hein, tu disais qu'il faisait les effets sur le plateau. David Scherrer, je pense qu'il donnerait sa vie pour faire un bon effet spécial. C'est un mec assez extraordinaire, je trouve, qui est capable de travailler pour 3 francs 6 sous comme pour des gros budgets. J'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup son attitude, en fait. C'est un type qui se bat pour le cinéma de genre et pour le fantastique, voilà, il aime ça, quoi.
David, c'est un vrai, ouais. C'est sûr que c'est vraiment quelqu'un dont on ne peut pas se passer en France, et puis effectivement, c'est un mec en or, et quand il est arrivé pendant le tournage, il a mis une ambiance de folie sur le tournage, tout le monde se marrait bien avec lui, t'es toujours là à faire des blagues et tout, et c'est un mec vraiment assez rigolo, quoi, tu vois, et très talentueux, et effectivement, comme tu dis, il peut faire du petit budge comme de la grosse production, et oui, c'est lui qui nous a fait l'amputation dans Cold Ground, et c'était ce qui était pas simple aussi à faire, d'un point de vue cadre aussi. Puis moi, je me souviens que pendant la séquence de l'amputation, c'est moi qui étais au cadre, du coup, à un moment, David, qui avait une poire pour faire saigner le faux pied, à un moment de l'amputation, du coup, ça pisse le sang, il avait une poire pour mettre du sang, etc. Et sans le faire exprès, ça avance un petit peu dans le cadre. Et du coup, moi, j'ai fait l'erreur, tu vois, de déporter un peu le cadre vers la droite, alors que c'était censé être un plan fixe, tu vois. Donc, du coup, il a fallu rebidouiller en post-prod et tout pour faire un truc statique. Mais du coup, David était planqué derrière, en fait, les comédiens, à faire sortir le sang de la fausse blessure, et on faisait des cuts et des faux raccords pour qu'il puisse se mettre un faux couteau, qu'on puisse faire le faux raccord avec le faux pied au moment venu. Enfin, David, vraiment, il était exceptionnel. Il était là dans sa petite doudoune, dans le froid, à bosser dans la neige et tout, sans jamais se plaindre, toujours avec la bonne humeur. Ce mec est vraiment super. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de rebosser avec lui plus tard cette année, si tout va bien. Donc du coup, j'ai hâte de le revoir. Je l'ai revu à Gérardmer en janvier, parce qu'il est toujours là, c'est toujours à Gérardmer. Toujours là au festival, s'il y a toujours un film en compétition ou un court, puisqu'il fait tout, il fait tous les effets spéciaux en France limite. Donc c'est vraiment quelqu'un de talentueux, et je salue son talent. Si David, si tu nous écoutes, merci à toi.
I saw a shadow about 10 feet long. Was down the road behind a tree.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Found Footage. Sur Cold Ground, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, mais j'ai l'impression que, Fabien Delage, tu construis une sorte de jeu de pistes macabres, un peu à la manière de Miric Sanchez et de ce qu'ils ont fait sur Blair Witch.
Oui, c'est vrai, ouais, exactement. C'est vrai que c'est très inspiré Blair Witch, où ils sont perdus dans la forêt, et puis ils trouvent des traces, des espèces de jeux de pistes, comme tu dis, où progressivement ils voient des choses étranges, tu vois, des animaux morts. Tu vois, on voit un lapin qui a été skinné aussi, qui on leur tirait la peau. On retrouve des petits morceaux de chair comme ça. Il y a des restes d'animaux. puis après ils trouvent des restes humains. Il y a une espèce de montée dans l'horreur crescendo où plus ils s'approchent du camp en altitude, du camp supposé où ils doivent se rendre, le camp qui s'appelle Coground justement, et plus ils montent en altitude, plus ils sont loin de la base de Pinewood, du chalet initial. Donc du coup ils se retrouvent de plus en plus perdus dans la forêt, et en plus de ça ils trouvent des choses de plus en plus flippantes. Et c'est cet aspect vraiment, oui, quand tu sais, bah, dans Blair Witch, à un moment ils se réveillent et ils sortent de la tente, et puis ils trouvent un petit paquet en tissu avec du bois et de la chair à l'intérieur, tu vois. Et ça c'est super flippant. J'adore cet aspect un peu folklorique. J'aime bien quand retrouver des morceaux de viande, des morceaux de chair dans la forêt. Je trouve que c'est il y a quelque chose de très poétique, de très macabre et de très flippant, de très folklorique dans ce genre d'imagerie. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi avec Coground, dans la forêt, où là la forêt est enneigée et tout, mais on retrouve progressivement des indices qui font monter la tension et qui pousse vraiment le spectateur à se questionner de qu'est-ce qui se passe dans la forêt en fait. Est-ce que c'est vraiment des extraterrestres, est-ce que c'est une secte, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des créatures, est-ce qu'il y a un loup, est-ce qu'il y a un monstre, est-ce qu'ils vont s'en sortir aussi. Donc progressivement les personnages vont découvrir ces trucs-là, puis ils vont tester leur tolérance et leur peur face à ça, jusqu'à ce qu'ils se disent ouais, c'est trop flippant, il faut se casser, mais en fait il est déjà trop tard à ce moment-là, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu une chronologie et un schéma narratif à la Blair Witch, ouais, c'est vrai. J'en suis fier.
Alors, le found footage, c'est un genre que je trouve qui se fait de plus en plus extrêmement rare au cinéma, par contre, qui a gagné énormément de popularité sur Internet via les web-séries ou les ARG, les Alternate Real Game, qui consistent à faire participer directement ou non le public au développement ou à la compréhension de la web-série. Tout commence en 2009 avec Marble Hornet de Trent Wagner, qui repose sur le mythe du Slenderman. Puis le genre de l'analogue horreur va gagner beaucoup en popularité. C'est un genre qui repose sur des rendus visuels. Il y a la technologie d'avant 2000, comme un support VHS ou des jeux de PlayStation ou de NES. Et depuis 7-5 ans, c'est un genre extrêmement prolifique. On a Petscope qui repose sur l'esthétique d'un jeu de PlayStation et qui aborde le rebirthing aux États-Unis. Gemini Home Heart Entertainment qui est mon préféré, qui évoque une invasion extraterrestre par une horreur cosmique. Mandela Catalog, qui est une uchronie où Marie n'a pas enfanté du Christ. Ou encore les Backrooms de Ken Pixel, qui réadaptent le mythe récent d'Internet, des backrooms. Donc ma question, c'est, reste-t-il de la place pour found footage au cinéma, ou bien est-ce que c'est un genre condamné finalement à Internet, aux anthologies et aux services à la demande à vidéo sur Internet ?
C'est vrai qu'Internet... En fait, on peut faire des films maintenant pour pas grand-chose, surtout si on veut faire du found footage. Donc du coup... le format internet est pas mal pour mettre ça en avant, et surtout dans le jeu vidéo. C'est vrai que dans le jeu vidéo c'est assez flippant, c'est une espèce de POV fan footage horrifique. D'ailleurs il y en a un, je sais plus le titre, qui arrive bientôt, qui a l'air incroyable. C'est un mec avec une GoPro qui se balade dans la forêt, c'est super réaliste et tout, ça a l'air d'être vraiment vraiment flippant. Effectivement, c'est vrai que le jeu vidéo s'en est beaucoup emparé. Et c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. C'est vrai que moi je suis très friand de ce genre de trucs, même si j'ai pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Souvent j'essaie de mettre un petit temps dans mon planning pour me dire j'ai trop envie de jouer à celui-là et tout. Et c'est vrai que j'adore ce genre de flip. Mais je pense que quand même le fan footage au ciné continue en fait, puisque c'est moins mis en avant, c'est-à-dire que les critiques en parlent moins, mais il y a toujours quand même du fan footage qui se fait. Bah là la preuve, il y a The Out Waters qui est sorti en salle aux États-Unis le 9 février, qui est alors moi je l'ai pas vu, mais c'est considéré comme le nouveau Blair Witch, ce qui paraît, c'est incroyable, c'est vraiment le renouveau du fan footage, et c'est terrifiant et tout. Et chaque année on a quand même son petit lot de fan footage qui sort. Puis tu sais, il y a les VHS qui sortent un petit peu régulièrement aussi, qui sont de très bonnes productions. Ça devient de mieux en mieux à chaque fois, j'ai limite l'impression à chaque fois que ça sort. Donc je pense que le fan footage n'est pas mort, mais c'est vrai que c'est un genre auquel les gens sont habitués maintenant, et dans le jeu vidéo ou dans la web série. Donc du coup, ça a peut-être moins d'impact quand ça sort en film. Donc maintenant, le défi, c'est de faire du found footage vraiment innovant pour arriver à capter les audiences en salle et faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait, quoi. C'est vrai que le film de créatures found footage ou des trucs comme ça, il y en a toujours qui sort, mais c'est du direct ou vidéo et ça passe un peu inaperçu. Et c'est vrai que ça a du mal à vraiment faire date dans le genre. Et c'est pas un genre en voie d'extinction, mais il est moins mis en avant, effectivement. Ouais. Il est moins marketé, en tout cas, ouais, ça c'est sûr.
Alors, Fabien Delage, on ne peut pas se quitter, hein, réalisateur de Cold Ground, on le rappelle, qui est disponible chez BZZ Vidéo, accompagné d'ailleurs en double programme de The Legend of Boggy Creek de Charles B. Pierce, un film de 72. Fabien, nous, ce qu'on a envie de te demander, puisque tu en parlais un peu à l'instant, tu l'as abordé, tu disais que tu vas retravailler avec David Scherrer, voilà. Alors, quels sont tes projets? Parce que j'ai vu sur Internet un 3h15 AM, ante midnight pour le dire à l'anglaise, quoi, voilà, ou en anglo-saxonne. Sur quoi tu travailles? Qu'est-ce qui nous attend dans les semaines, mois à venir de la part du réalisateur Fabien Delage?
3:15 AM, effectivement, 3h15, c'était une anthologie de fan footage d'horreur qu'on a déjà sortie, en fait. C'est déjà tourné, c'est déjà été distribué. C'est sorti que aux États-Unis, il n'y a pas eu de sortie française. C'est une anthologie d'horreur fan footage à la française. Donc, c'est le VHS français. On a que des équipes différentes qui ont fait chacun un court métrage en fan footage sur le thème de 3h15. Moi, j'en ai fait un aussi qu'on a tourné en Oregon, où il est question de chercher Bigfoot d'ailleurs, et même Doug Wren qui joue dedans. Doug Wren de Cold Ground et de La Rage des Démons. Donc c'est déjà sorti. C'est sorti, je crois, il y a 2 ans, un truc comme ça, ou 1 an. Et ça fait son petit chemin, tu le trouves sur Prime et tout, mais il n'a pas de sortie française, effectivement. Donc celui-là, il est fait. Il y a même David Scherrer qui a bossé dessus aussi. Et il est assez fun, bien que fauché indie. Au moins, c'est la première anthologie fan footage française qui est sortie. Et pour les projets à venir, là, je suis en tournage / post-prod d'un documentaire sur le cinéma fantastique qui s'appelle First Screams et qui, j'espère, sortira l'année prochaine. Et j'ai tourné à la fin de l'année, j'ai tourné un nouveau long, justement en compagnie de David Scherrer. Ce sera pas un fan footage pour le coup, là, ce sera un film d'époque, de fantôme, 1901, tu vois, donc un truc qui n'a rien à voir, mais que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est un film sur le spiritisme, mais c'est pas un documentaire pour le coup, c'est une vraie fiction d'horreur et tout, avec un petit casting sympa aussi. Et voilà, je pense que on le verra plus en 2025, je pense. Hein, le temps qu'on tourne en fin d'année, le temps qu'on passe à poste en 2024, je pense qu'il arrivera en 2025. C'est mon plus gros budget à jour et j'ai hâte de m'y mettre, voilà.
Eh bien Fabien, on te remercie. Alors on rappelle qu'on a hâte de voir tout ça aussi, donc il faudra que tu reviennes dans l'émission, ça. On n'a pas le choix. Voilà, et on rappelle que Cold Ground donc, est disponible chez BZZ Vidéo. Et puis donc, on fait un petit appel, hein, s'il y a un distributeur français qui veut sortir 3h15 AM, je le dis à la française parce que j'ai un accent anglais assez affreux, eh bien qu'il n'hésite pas. En tout cas, Fabien, un grand merci.
Merci à vous, c'était super.
Deep in the woods where the mysteries grow, there is a place where nobody goes. And if you decide to go there alone, beware of the beast that makes it his home. The legends all say that a creature lives there with gigantic feet all covered in hair. And those who have seen it just run away scared. It looks like a man that's been crossed with a bear. Deep in the unknown, far away from home, something strange just can't be explained. Be careful where you roam.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Never found out if the hunch was correct, 'cause
something occurred.